Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques, directeur scientifique du CERIUM et votre animateur. Aujourd'hui à l'émission, nous parlons de la France et de ses banlieues. Pauvreté, groupes criminels, inégalités, trafic de drogue, violence, les banlieues françaises ont souvent mauvaise presse. Dans l'arène politique, les débats qui entourent les enjeux des cités, comme on les appelle, déchaînent les passions. Pourtant, divers phénomènes culturels émergent de ces quartiers périphériques et font rayonner la France dans le monde entier. Comment comprendre le rapport complexe qu'entretient la société française avec ses banlieues? Y a-t-il des rapports avec ce qui se passe ici au Québec? Pour en parler, nous recevons Marwan Mohamed, qui est sociologue, chercheur au CNRS, en résidence au CERIUM pendant une semaine. Bonjour Marwan.
Bonjour.
Alors peut-être qu'on peut commencer par nos expériences personnelles. Moi-même, j'ai été élevé dans une banlieue de la ville de Québec et quand j'en parle à des Français, ils sont toujours un peu étonnés. Ils associent la banlieue à quelque chose de très différent de ce que j'ai vécu en Amérique du Nord, c'est-à-dire un quartier essentiellement prospère avec de grandes maisons, de grands jardins, de bonnes infrastructures modernes. Évidemment, la réalité en France est tout à fait différente. Vous, dans quelle banlieue avez-vous été élevé et à quoi ça ressemble une banlieue française?
Alors, la banlieue, d'abord, si on prend un peu la notion étymologique, c'est le lieu du banc. C'est le lieu où on met à l'écart. C'est un peu le lieu de la ségrégation, si on prend l'étymologie du terme. C'est déjà un lieu où on met les gens de côté, où les gens vivent de côté. Donc, ça, c'est l'étymologie, et en tout cas, dans son usage français. Et cette notion de banlieue va être progressivement associée dans l'imaginaire. Il y a la banlieue de l'imaginaire, qui est une banlieue populaire, pauvre, où on retrouve des phénomènes de délinquance. C'est une banlieue qui est ouvrière et où, depuis la fin des années 60 et les années 70, on retrouve une forte proportion des populations migrantes ou les descendants d'immigrés. Donc ça, c'est la banlieue imaginaire, mais la banlieue géographique, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors du centre. Si je prends ma région d'origine, la région parisienne, cette banlieue, en fait, on retrouve des banlieues telles que vous la décrivez autour de Québec, c'est-à-dire des parties prospères, aérées, verdâtres, composées de classes moyennes et supérieures qui vivent en banlieue, donc des banlieues aisées, et tout ce qui relève des banlieues plus populaires, notamment ce qu'on appelle nous en France les cités, hein, c'est le terme qui s'est beaucoup plus, qui s'est imposé en fait derrière la banlieue, on parle de cités, et où on retrouve les classes populaires, les populations les plus vulnérables, et très souvent une forte proportion d'immigrés, descendants d'immigrés. Moi j'ai grandi dans les cités, dans ce type de cité-là. En tout cas, j'ai grandi à partir de mes 12-13 ans et j'ai jamais quitté ma ville de banlieue. Et même si je peux rejoindre une banlieue verdâtre, prospère aujourd'hui parce que j'en ai les moyens, je reste attaché à la proximité avec ce qui fait aussi peur dans les médias, le cinéma ou même dans l'industrie musicale.
Donc, on va parler un peu des représentations de la banlieue. Mais avant, j'aimerais que vous nous rappeliez quelle est l'histoire et quelle est la fonction urbanistique de cette cité à la française qui est très différente de l'histoire des banlieues nord-américaines?
Alors, on a eu, à partir du 19e siècle, l'industrialisation du pays qui a nécessité des besoins de main-d'œuvre extrêmement importants, ce qui a alimenté l'exode rural et aussi la disparition du monde paysan progressivement dans le contexte français qui était majoritaire au 19e et au début du 20e siècle. Et donc, cette évolution à la fois de la fin des paysans et de l'autre côté du développement de l'industrie en France. Et donc, on a eu un besoin de main-d'œuvre ouvrière qui s'est traduite par la construction d'espaces résidentiels qui entouraient les sites industriels. Donc, autour des usines, on avait les cités ouvrières. Et c'est assez classique dans les régions ouvrières du nord, de l'est de la France, où les anciens sites industriels sont entourés de petites maisons, ou en tout cas de quartiers ouvriers qui sont assez typiques, beaucoup de briques rouges, etc. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des besoins de reconstruction, et puis l'industrie est repartie. Hein, on parle des grottes des Trente Glorieuses entre 1945 et 1975, où la croissance économique française est extrêmement importante. Et du coup, il y a un besoin encore plus fort de main-d'œuvre qui se traduit par une arrivée assez massive de population, de main-d'œuvre migrante d'Europe, Pologne, Italie, on savait comment ça avant, Portugal, mais également des anciens territoires colonisés, à savoir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique de l'Ouest, etc. Et pour loger cette population-là dans une période d'après-guerre où il y a une vraie pénurie de logements, les planificateurs, les urbanistes décident de définir un certain nombre de zones urbaines à aménager et qui sont généralement sur des terrains avec peu de valeur, proches des infrastructures autoroutières ou des gares, qui sont souvent en périphérie des centres-villes ou des quartiers aisés, pour loger cette population qui, parfois, logeait dans des hôtels miteux, dans des bidonvilles, etc. Et ce qui est décidé, c'est de construire des sites avec forte densité, de forte concentration, pour des raisons économiques. Une grande barre d'immeubles, ça coûte toujours moins cher à la construction que plein de petits immeubles de résidence, et avec des tailles qui peuvent atteindre parfois 25 000, 30 000 habitants sur sur 2, 3 km carrés. C'est comme ça que les grandes cités émergent. Et au départ, elles permettent à des personnes d'accéder au logement dans des conditions dignes. Donc, c'est une forme de mobilité. Et on retrouve au départ des classes moyennes et des classes populaires. Mais avec la dégradation économique la dégradation de l'économie française, vous avez le départ des populations ouvrières les plus stables, les petites classes moyennes, et qui sont remplacées par des populations de très grande vulnérabilité. Et c'est là que la question des banlieues devient absolument centrale et qu'elle est associée, uniquement associée, à la transgression, à la délinquance ou à la question de la ghettoisation, entendue comme forte concentration de populations pauvres et immigrées.
Justement, donc la banlieue française, elle est l'objet de représentations très négatives, positives aussi, j'aimerais qu'on en parle un peu plus tard, mais commençons par ces représentations négatives. Quand on lit les médias français, étrangers aussi, je me souviens d'articles dans le New York Times qui dépeignent la banlieue française comme un lieu essentiellement violent, avec des voitures brisées, la criminalité, des zones où on ne peut pas aller si on est par exemple un représentant des forces de l'ordre. D'où viennent ces représentations extrêmement négatives de la banlieue française, qui ne correspondent pas toujours à l'impression qu'on a quand on s'y promène, en fait. Ce ne sont pas des lieux aussi infernaux qu'on peut le voir dans les médias français et étrangers.
Alors, il n'y a pas de modèle géographique, urbanistique, c'est pas quelque chose d'homogène, en fait. Il n'y a pas un type de cité. On a des cités avec un bâti extrêmement dégradé, avec beaucoup d'épaves d'automobiles dans l'espace public, des bâtiments mal entretenus ou un espace public mal entretenu à l'écart. Donc, on peut avoir des fois l'image de rentrer dans un territoire extrêmement dégradé et c'est la population qui en premier subit cette image-là. Et puis, on a d'autres quartiers extrêmement populaires où on a des phénomènes de délinquance, etc., mais qui sont organisés, enfin en tout cas qui se trouvent dans des espaces où l'urbanisme est plus tardif et où un certain nombre de grandes erreurs, notamment l'architecture des grandes bars, etc., a été abandonnée pour des petits immeubles, beaucoup de verdure, beaucoup d'équipements, mais on retrouve les mêmes concentrations de difficultés sociales et également le même niveau de concentration d'un certain nombre de problèmes publics qui peuvent émerger. Donc d'un quartier à l'autre, on peut être extrêmement surpris quand on traverse, et j'en traverse beaucoup de ces quartiers-là en France aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il y a des problématiques concrètes de délinquance, de petite délinquance, de trafic, de révoltes urbaines? Oui, il y en a. Oui, il y en a, et il y en a depuis très très longtemps, en fait, dans les milieux ouvriers, il y en a depuis très très longtemps dans l'histoire française, dans les classes dominées, on a toujours eu des moments de révolte, des certains symptômes, des difficultés sociales qui se traduisent par des transgressions, etc. Et donc ça demeure dans le contexte français. C'est une partie des transgressions dans le contexte national. Il y a d'autres formes de délinquance qu'on retrouve dans d'autres milieux sociaux et qui sont beaucoup moins visibles dans le débat public. Il n'en demeure pas moins que, en fait, l'essentiel de la population active de ces quartiers-là, elle vit sa vie tant bien qu'elle mal, elle fait avec, elle travaille, des gens qui occupent des emplois d'ouvriers ou d'employés de petites classes moyennes. Il y a un taux de chômage qui peut atteindre parfois 60% des moins de 25 ans. Donc, on a une situation économique qui est dramatique et pour lesquelles les pouvoirs publics ont du mal à inverser la tendance. Donc, il y a de réels soucis. Mais en fait, ces soucis, ces manifestations à quoi on résume la banlieue ont toujours été des manifestations extrêmement minoritaires. Et c'est ça le décalage, et c'est là où la question de la représentation, de la construction de la représentation, elle pose problème, parce que si je vous dis que je veux pas moi quitter ce quartier-là où habite toujours ma mère, c'est que ma mère veut pas quitter elle-même, c'est-à-dire que je prends son exemple, j'étais étudiant à Toulouse, je lui dis viens t'installer à Toulouse, le prix qu'on paye de notre HLM dans la banlieue parisienne, on peut se louer un pavillon dans la proche périphérie de Toulouse. Les prix sont pas les mêmes. Et elle m'a dit, mais jamais au grand jamais. Tu veux ma faim, tu veux m'isoler. Et donc, elle est extrêmement attachée. Et sa vie est riche, sa vie est dense. Et ma vie était riche et dense. Elle est toujours dans ces quartiers-là. Donc, ça dépend comment on le définit. Ça dépend aussi comment on l'expérimente et on le vit. Ça dépend quel rapport on a avec les désordres publics. Il y en a des désordres publics, les turbulences juvéniles, il y en a. Quel est notre rapport et notre niveau de distance par rapport à ces questions-là? Et ça va vraiment déterminer le sentiment qu'on peut avoir de sécurité et d'insécurité. Je rappelle un point de recherche. Les recherches sur la délinquance et l'insécurité en France ont montré qu'il n'y avait pas de corrélation entre le fait d'être victime et le fait d'avoir peur. Et les personnes qui sont le plus victimes, ce sont les gens des quartiers populaires, ce sont aussi les gens qui ont le moins peur ou qui éprouvent le moins de sentiments d'insécurité. Donc, il y a une dimension résiliente chez ces populations-là qui se traduit pas par une association entre le risque d'être victime et le fait d'avoir très, très peur.
Donc, il y a une représentation négative des banlieues qui n'est pas tout à fait représentative de la vie quotidienne de leurs habitants. Mais on voit émerger aussi, me semble-t-il, une représentation positive des banlieues depuis quelques années. Donc, une grande partie de la culture française qui s'exporte provient des banlieues. Un grand nombre, par exemple, de stars, du cinéma, comme Omar Sy, la fameuse série Lupin qui a fait le tour du monde. Le rap français ou le hip-hop français s'exporte très, très bien aussi à l'échelle internationale. Comment expliquer, finalement, ce succès? Quel est le poids de la banlieue dans la culture française contemporaine?
Je voudrais résumer un peu à la fois la question et un peu ma réponse à travers une phrase d'un rappeur français qui s'appelle Medine, qui, dans son morceau, un clip qui s'appelle Grand Paris, il a cette phrase qui résume un peu bien les choses, qui dit « La banlieue influence Paname, Paname influence le monde ». Et en fait, il y a cette réelle centralité aujourd'hui dans l'espace créatif français. Et quand je dis l'espace créatif français, je parle bien sûr de la musique, du cinéma, du théâtre, mais également de la littérature, également des sciences, qu'elles soient des sciences dites dures ou des sciences sociales, dans la pensée politique, dans le renouvellement aussi du champ politique et de l'offre politique, des figures, des personnes, des expériences, des mouvements, des organisations issues ou en lien très fort avec la question de ce qu'on appelle les banlieues, les quartiers populaires ou les populations issues de l'immigration, c'est quelque chose qui est devenu absolument fondamental et qui alimente, selon moi, une partie, l'espèce de backlash qu'on est en train de vivre en France. C'est-à-dire que, oui, les banlieues, de manière générale, pas toujours dans les bonnes conditions, sont en train de prendre une place extrêmement importante. Je vais même vous donner une anecdote. Dans le domaine de la criminalité organisée, il y a aussi cette espèce de concurrence et cette montée en puissance de figures, d'acteurs criminels issus des banlieues ou aussi de l'immigration qui viennent un peu contester une espèce de position dominante, légitime et monopolistique des voyous traditionnels ou du délinquant organisé traditionnel et qui se plaignent parfois auprès des policiers de cette concurrence et de cette situation qui évolue. Maintenant, je referme cette petite parenthèse pour dire, oui, dans le cinéma aujourd'hui, dans tous les domaines de forte visibilité, il y a une présence des quartiers populaires qui ne me surprend pas, moi, à titre personnel, et qui vient du fait qu'il y a une espèce d'effervescence de créativité dans la rue. Et il y a un fort niveau de densité, il y a beaucoup d'interactions, il se passe beaucoup de choses, et ça nourrit un imaginaire. Et ça nourrit une créativité, ça nourrit une imagination avec des gens qui aussi étudient, se construisent une vision du monde et une créativité qui se nourrit à la fois de la littérature classique, mais de leurs copains au coin de la rue. J'aime beaucoup une auteure qui s'appelle Faïza Guen, qui est devenue une auteure à succès en France, qui est issue de Seine-Saint-Denis. Et dans sa littérature, dans ses livres, on retrouve à la fois l'influence de son expérience de banlieusarde, mais également l'influence de la littérature classique, avec une manière d'écrire et puis un mélange de références qui est le produit de cette expérience-là. Donc, oui, on a ces deux visions concurrentes aujourd'hui. On a ces deux visions concurrentes, sauf peut-être dans le rap français, où il y a une espèce de bataille sur ce que le rap français comment le rap français peut contribuer à casser ou à reproduire l'imaginaire négatif. négatif des quartiers populaires. Et là, même parmi les rappeurs, il y a un vrai débat qui est assez virulent entre les uns qui sont plutôt d'une posture critique de la représentation négative, de la mise en avant du capitalisme criminel, de l'hédonisme, etc., et qui disent aux autres, vous contribuez un peu à un système d'oppression que de temps en temps vous dénoncez ou vous prétendez dénoncer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, par exemple, les radios à grande diffusion, les vrais prescripteurs radiophoniques de rap français, notamment la radio Skyrock, on se rend compte que elle favorise beaucoup plus cette espèce de rap qui reproduit cet imaginaire collectif. Donc la radio, cette radio-là est boycottée par beaucoup de rappeurs dits conscients, politisés, qui ne veulent pas rentrer dans ce système-là.
Alors en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on ne devrait pas parler de banlieue, mais plutôt de culture des milieux populaires en contexte fortement urbain, par exemple. Et de ce point de vue, en fait, le phénomène existe dans beaucoup de pays dans le monde. Il y a une culture populaire propre aux favelas, au Brésil, aux ghettos aux États-Unis, dans certains quartiers de Montréal également. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les unit aujourd'hui, toutes ces cultures populaires urbaines?
Tout ce qu'on appelle les cultures urbaines, mais qui pour moi est la culture française, hein. C'est une part de la culture française ou une part de la culture francophone, ça dépend comment on veut le labelliser. Mais en fait, toutes les formes de culture comme ça, créatives, sont toujours hybrides. C'est l'hybridation la norme. Que ce soit au Brésil, aux États-Unis, en France, à Montréal, c'est l'hybridation la norme, c'est-à-dire le mariage entre des spécificités locales, la culture locale, une manière de voir locale et des éléments importés qui circulent à travers nos systèmes d'information qui sont aujourd'hui mondialisés en temps réel. Et donc, c'est toujours le double produit d'une culture globale et d'une culture locale. C'est pour ça que j'ai écouté, là, pendant mon séjour, un certain nombre d'artistes montréalais, québécois, notamment en matière de hip-hop, mais pas que. Et oui, j'ai bien senti ce qui circule dans ce qu'ils racontent. J'ai bien senti qu'ils appartiennent à une culture mondiale, mais j'ai aussi bien senti qu'il y avait un certain nombre de références sémantiques, imaginaires, qui étaient très ancrées localement et qui pouvaient être comprises d'abord et avant tout par les populations locales, par les Québécois, les Montréalais, etc. Et donc, c'est ça, ça a toujours été ça, le produit. Mais le rock, qu'est-ce que c'était, le rock'n'roll? Pour ceux qui ont aimé le punk, qu'est-ce que c'était? La salsa, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Et puis les musiques africaines, les sonorités africaines qui viennent en force aujourd'hui dans le hip-hop et dans la culture et dans les sonorités françaises, on a des formes de mariage aujourd'hui qui sont extrêmement créatives, stimulants, et donc qui participent à construire l'histoire de notre culture, qu'elle soit globale, francophone ou plus française ou québécoise.
Mais pendant votre séjour à Montréal, est-ce que vous avez observé une certaine influence de cette culture des banlieues françaises dans les quartiers montréalais, par exemple?
Moi, je ne pourrais pas dire que... Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais à Montréal, je sens des choses très montréalais. Voilà. Et je n'ai pas le sentiment de voir des espèces de réplications ou de clones, ni nord-américains, ni français. Ils sont québécois et je le sens bien, en fait. Et il y a plusieurs niveaux. Bien sûr qu'il y a des influences. On questionne sur tel ou tel rappeur. Je sais que les rappeurs francophones sont très suivis ici à Montréal, qu'il y a un vrai intérêt. Et puis il y a toujours eu cette espèce de... Moi, j'ai l'impression que le rap français, par exemple, a l'influence en France, la même influence que l'humour québécois a eu en France. Si je devais un peu résumer les choses, ça circule, c'est suivi, l'humour montréalais, l'humour québécois de manière générale, on le suit en France. Il y a un truc où c'est peut-être la région en dehors de la France qu'on suit le plus en matière d'humour, parce qu'il y a une marque de fabrique, il y a une patte. Et moi, je ferais le parallèle entre l'influence de l'humour québécois en France et l'influence peut-être du rap français au Québec. C'est que ça ne remplace pas, mais il y a un canal. Il y a un canal de circulation des deux côtés qui fonctionne bien. Donc oui, on partage la même langue, hein. On partage beaucoup plus que la même langue culturellement, ce qui n'empêche pas que je sens bien que là, je suis dans un espace-temps, un espace culturel bien, bien particulier qui a sa propre dynamique et que quand je rentre en France, c'est la même chose.
Alors, le temps passe, mais j'aimerais quand même terminer sur une question plus personnelle. Bon, j'ai évoqué au début de l'émission nos parcours respectifs. dans mon cas, disons qu'il n'y a pas grande surprise au statut socio-économique que j'occupe aujourd'hui par rapport à ma trajectoire. Dans votre cas, provenant justement d'une banlieue parisienne, c'est plus surprenant. On a beaucoup entendu parler, évidemment, de l'histoire d'Édouard Louis en France, qui a écrit sur ce qu'avait représenté son incursion dans le milieu universitaire français. Lui ne venait pas d'une banlieue, venait plutôt de la province. Qu'en a-t-il été pour vous, Marwan Mohamed? À quoi ça a ressemblé votre arrivée dans le monde universitaire français? Vous êtes à l'École normale supérieure, au CNRS. Qu'est-ce que ça a représenté dans votre cas?
Et moi, je suis un produit de l'échec scolaire. Vraiment, l'échec scolaire. J'ai raté mon brevet à la fin des collèges, j'ai raté mon brevet professionnel. J'ai été travailler pendant 5 ans. Je fais plein de métiers, j'étais travaillé à l'usine, dans les espaces verts, j'étais éducateur, intervenant, communautaire, comme on dit ici. J'ai fait pas mal de petits métiers dans le télémarketing, etc. Au McDo, enfin bref, j'ai eu plein de petits boulots, les boulots occupés par ceux qui n'ont pas beaucoup de diplômes. Et quand je suis revenu à l'université, j'ai passé une équivalence de bac et je suis tombé amoureux des études, je suis tombé amoureux de la sociologie. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'était un peu, on a une expression dans la carte qui dit c'est que du bénéf. C'est que du bénéf. Voilà. C'est tellement inattendu qu'on profite de tout. Au début, au jour le jour, on se projette pas et puis au fur et à mesure, ça devient un peu plus sérieux, on se projette et puis on veut pas passer le concours parce que c'est pas pour nous et puis on nous pousse à passer le concours et puis on l'a et on rentre dans des institutions prestigieuses, élitistes. Et donc, il y a deux possibilités quand on arrive dans ce cadre-là. Soit un peu comme Pierre Bourdieu l'a raconté, on le vit au début très mal, on le vit en termes de violence symbolique et la distance sociale vous abîme, vous écrase, etc. Mais bon, moi, j'ai lu Bourdieu avant de rentrer dans le milieu universitaire. Et donc, je remercie Pierre Bourdieu de m'avoir aussi préparé, armé à rentrer dans le milieu universitaire sans me laisser écraser par le poids du capital culturel des uns et des autres, de leur trajectoire et de leur milieu social d'origine. Et je ne suis pas tombé dans le piège non plus d'espèce de revanche sociale, des gens qui ont toujours quelque chose à prouver parce qu'ils ne se sentent pas légitimes et que du coup, ils ont... Non, je suis très serein, en fait, depuis que je suis rentré en milieu universitaire. Il y a plein de gens très, très sympas. Mais surtout, c'est pas le... Je vais le dire comme ça, c'est mon métier, mais c'est pas le centre de ma vie. Et dès lors que c'est pas le centre de ma vie, ça n'a pas un énorme impact ce qui s'y passe sur mon bien-être, mon identité. Et moi, le centre de ma vie, c'est le peuple, c'est mon peuple, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est les organismes communautaires que j'accompagne sur le terrain, c'est mes projets. Je suis entraîneur de foot en salle aussi. J'ai d'autres activités. Ma vie, c'est pas que le milieu académique. Et du coup, pour moi, ça permet un équilibre extraordinaire. Moi, je pense que les sciences sociales sont émancipatrices. Et c'est une science qui doit se transmettre, se faire très sérieusement, qu'elle doit se transmettre, diffuser, infuser la société. C'est ce que j'essaie de faire le temps de ma carrière et voilà comment je le vis. Donc, je suis très serein, vraiment. Je suis très, très, très serein dans le milieu universitaire. J'apprécie au jour le jour, j'apprécie d'être ici. Pour moi, c'est toujours un truc, c'est pas un rêve éveillé parce que bon, maintenant, j'ai les pieds, je sais où je suis, mais c'est toujours quelque chose que je vis pleinement. Sans aigreur, avec beaucoup de joie, et je vis chaque moment pleinement. Et c'est pour ça que je peux dire que je me sens bien, j'apprends beaucoup. Et puis, c'est un métier qui est prestigieux, c'est un métier qui est honorable, on produit de la connaissance, on la transmet. C'est un privilège de passer sa vie à faire ça.
C'est très intéressant parce que malgré nos trajectoires et nos objets de recherche différents, moi aussi, c'est Pierre Bourdieu qui m'a le mieux aidé à comprendre le monde dans lequel je vis. Merci infiniment, Marwan Mohamed, à la fois pour cet entretien que vous nous avez consacré, mais surtout pour la générosité dont vous avez fait preuve toute la semaine pendant votre résidence au Cérium. Je remercie également Emma Guerrero-Dufour, l'équipe technique, la Faculté des arts et des sciences, l'Agence France Presse, Savoir Média et le Cérium qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. C'était notre émission sur la France et ses banlieues. À très bientôt. Au revoir.